Poésie présente Malgré nous, de Claire Norton, lu par Aurélien Ringelheim. En l'amitié, de quoi je parle ? Les âmes se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Montaigne. Dans l'amitié, rien n'est feint, rien n'est simulé, tout est vrai et spontané. Cicéron. Prologue. Nuit du 21 au 22 août 1988. L'immense bâtisse se détachait encore un peu dans la pénombre et des éclats de rire s'échappaient des fenêtres restées ouvertes. Le rez-de-chaussée était éclairé dans sa totalité. De manière quasi simultanée, de nombreuses lumières s'allumèrent au premier puis au deuxième étage. Les enfants regagnaient leur chambre après avoir célébré leur dernière soirée ensemble. Le lendemain matin, ils quitteraient tous ce camp de colonies de vacances pour retrouver leur foyer respectif. Théo, 13 ans, glissa dans la main de son ami Maxime un bout de papier sur lequel il avait griffonné à la hâte son adresse et son numéro de téléphone. Les deux enfants s'étaient rencontrés 3 semaines plus tôt en arrivant ici et ne s'étaient plus lâchés depuis. Sauf pour dormir, Maxime s'étant vu attribuer une chambre au deuxième étage qu'il partageait avec un autre garçon, Julien, alors que Théo devait dormir au premier. Théo avait le cœur lourd à l'idée de devoir quitter son nouvel ami. D'ordinaire, il se tenait toujours à distance des enfants qui l'entouraient. Non par manque de sociabilité, mais par mesure de protection. Mesure à laquelle la cruauté des autres l'avait contraint, car les railleries permanentes au collège l'avaient poussé à s'isoler de plus en plus et à se méfier de la méchanceté de ceux de son âge. De vilaines bagues en métal collées sur ses dents l'avait élevé au rang de souffre-douleur. Dès qu'il franchissait le seuil de l'établissement, les plus féroces le pointaient du doigt en ricanant. Fusaient alors des bouffons, dents de fer, aluminium, centrales nucléaires. Les plus faibles ne manquaient pas d'en sourire, bien contents de ne pas être à sa place. Ces humiliations le poursuivaient en permanence, de la cour aux salles de classe, avant de venir hanter ses nuits. Quiconque osait l'approcher prenait le risque de devenir à son tour un pestiféré. De fait, lorsque lui-même se trouvait en terrain neutre, comme c'était le cas dans cette colonie où il ne connaissait personne à son arrivée, Théo restait sur ses gardes. Il avait fini par se convaincre que le bonheur ne pouvait se vivre que dans la solitude. Mais avec Maxime, tout avait été différent. La confiance puis l'amitié entre eux deux avaient de suite été une évidence. Le premier jour, en montant dans l'autocar, Théo avait comme à son habitude cherché un siège où il pourrait rester à l'écart des autres. Lorsque Maxime avait surgi en lui demandant s'il pouvait s'asseoir à ses côtés, Théo avait hoché la tête en pariant que son voyage allait se transformer en calvaire. Il n'en avait rien été. Son voisin lui avait parlé avec chaleur, puis il lui avait montré toute sa panoplie d'images Panini. Il lui avait spontanément offert celle du gardien du Paris Saint-Germain que Théo idolâtrait, Joël Batz. Maxime l'avait aussi interrogé sur ce qu'il aimait. Théo avait osé un sourire aussitôt réprimé, réalisant trop tard qu'il avait laissé à découvert ses horribles carrés métalliques. Il s'attendait à voir l'enfant le railler ou éclater de rire, mais sa réaction fut simplement de lui demander si « ce truc » ne le gênait pas pour manger. Le reste du voyage avait été magique. Théo s'était senti libéré de cet appareil de la honte. À son tour, il s'était exprimé. Parvenu à destination, ils connaissaient beaucoup de choses l'un sur l'autre, leur quotidien, leur passion, leur famille. À la fin du séjour, ils n'avaient plus aucun secret. Ils s'étaient confié leurs rêves les plus fous, leurs peurs, hontes et peines les plus enfouies. Maxime referma la main sur le papier et ils se jetèrent dans l'escalier. Arrivés au premier étage, ils tapèrent leurs poings l'un contre l'autre en tentant d'habiller ce geste d'une attitude virile. Chacun lisait dans le regard de l'autre ces choses que seuls de vrais amis pouvaient partager. Théo se tourna une dernière fois pour voir son acolyte monter un étage supplémentaire, puis il regagna sa chambre, situé en face de l'escalier. Comme tous les autres enfants, Théo avait dû partager sa chambrée avec un pensionnaire. Mais celui-ci était parti 3 jours après leur arrivée, victime d'une appendicite. Maxime et Théo avaient sans succès tenté de convaincre les moniteurs de les laisser dormir ensemble. Théo se glissa dans le lit. Malgré l'heure tardive, il n'éprouvait aucune envie de dormir. L'idée de quitter son nouvel ami l'attristait profondément. Certes, il se reverrait, mais Maxime habitait à Paris, lui dans les Yvelines, un gouffre pour 2 gamins de 13 ans. Il s'empara de l'image de Joël Batz et la glissa dans la poche de son haut de pyjama. Plus qu'un cadeau, cet autocollant était un vrai trésor. Il marquait le départ d'une grande amitié. 2 chambres plus loin, 2 autres enfants venaient de s'endormir en se réjouissant à l'idée de tout ce qu'ils auraient à raconter à leur retour. Aucun d'eux ne remarqua l'étincelle provoquée par une serviette pesant sur 2 fils électriques mal isolés et enchevêtrés derrière le vieux convecteur. Sous le poids persistant du tissu, les 2 fils, contraints de se toucher, produirent un échauffement des conducteurs, puis un court-circuit. Une nouvelle étincelle jaillit. Les gaines, obsolètes, commencèrent à fondre sous l'emprise de la chaleur. Les autres câbles alors dénudés s'effleurèrent et une flamme, petite, naquit. Elle trouva dans ce drap de bain la nourriture capable de la faire grandir en 2 secondes et poursuivit sa course sur la totalité du tissu. Un morceau de papier mural déchiré lui permit de s'étendre lentement au rideau. 30 secondes plus tard, les premières fumées firent leur apparition, rapidement suivies par les gaz chauds qui allaient aider à la propagation du feu. Les 2 enfants présents dans la chambre dormaient toujours à poing fermé. La fumée et les gaz commencèrent à recouvrir le plafond en une épaisse couche. La chaise, placée non loin du foyer de départ du feu, pyrolysa subitement et s'embrasa. Les flammes, encore localisées sur la largeur du radiateur, montaient maintenant jusqu'au plafond. Le porte-manteau, vissé à la cloison, s'effondra. Réveillé par ce bruit de chute, ou peut-être par l'odeur de brûlé, l'un des 2 enfants se crut en plein cauchemar lorsqu'il vit les rideaux transformés en gigantesques torches. Une des flammes mordit l'un des vêtements négligemment jetés sur le sol et gagna encore en intensité. Elle répandit des langues de feu à une vitesse fulgurante sur les meubles adjacents. L'enfant hurla tout en bondissant hors de la pièce, son jeune voisin sur les talons. La porte laissée ouverte mit encore plus en appétit les flammes déjà vives. Toujours en quête de sommeil, Théo se redressa subitement dans son lit. Il entendit une porte voisine s'ouvrir, puis une autre, juste après le bruit de quelqu'un qui courait dans l'escalier. Avant qu'une voix d'adulte ne se mette à hurler « Au feu ! Sortez les enfants, vite, sortez !» Une indescriptible cacophonie s'ensuivit. Les enfants logés au premier étage se ruèrent, paniqués, dans l'escalier face à la chambre de Théo. 2 chambres plus loin, dans la pièce où avait démarré l'incendie, le plafond venait d'atteindre la température insoutenable de 250 degrés. Il n'était maintenant plus possible de pénétrer dans cette pièce. La chaleur y montait à une vitesse fulgurante. Lorsque le détecteur d'incendie se mit à hurler à son tour, une panique inimaginable s'empara de tous, adultes compris, ces derniers ne parvenant plus à garder le sang-froid nécessaire qui leur aurait permis d'agir avec méthode. L'unique escalier menant aux étages ayant été pris d'assaut par les enfants, un bouchon humain se forma et fit perdre de précieuses secondes aux 5 moniteurs logés au rez-de-chaussée qui cherchaient à rejoindre ceux endormis au 2e étage. Le feu avait démarré depuis un peu plus de 4 minutes. Les moniteurs se ruèrent dans toutes les chambres du premier pour évacuer les enfants. Dans la pièce d'où était parti le feu, la température atteignait les 500 degrés et les fumées s'enflammèrent spontanément en partie haute. Quelques secondes de plus et la cloison séparant la salle d'eau du couloir s'embrasa. Les flammes se dispersèrent dans toutes les directions pour assouvir leur faim de matière à consommer. Les câbles, placés dans les faux plafonds, fondirent. Le feu se propageait maintenant par rayonnement sur une bonne longueur du couloir. Théo, coincé à l'angle de l'escalier, vit avec horreur une flamme surgir de sa chambre et se jeter sur l'abat-jour mural qui coula littéralement sous ses yeux. Il se souvint d'une scène. Une nuit de Noël où il avait cru voir son père mettre des cadeaux sous le sapin. Sa mère lui avait parlé d'un phénomène d'hallucination. Peut-être s'agissait-il là aussi d'une hallucination, car les images qui s'imposaient à ses yeux lui semblaient irréelles. Malgré les cris qui surgissaient de toutes parts, il entendit des fenêtres exploser. La scène était apocalyptique. Les moniteurs qui cherchaient à rejoindre le deuxième étage n'hésitaient plus à se frayer un chemin en bousculant les enfants avec brutalité.